Le fait que Boko Haram s'en soit pris à ses lycéennes, c'est aussi parce que c'est une cible plus facile que d'attaquer un lycée qu'une caserne militaire ou un poste de police. Donc il y a aussi des effets d'opportunité. Il y a aussi ce discours récurrent de Cheikh Kao sur les femmes qui devraient rester à la maison. D'une manière générale, si vous voulez, ce que dénonce Boko Haram, dont le nom est traduit sous la forme de l'éducation occidentale, est interdite par la religion. Mais il faut savoir que ce n'est même pas leur nom à eux. Ça, c'est le nom dont on les affuble, c'est un surnom qu'ils récusent eux-mêmes. Ils sont contre certains aspects de la modernité occidentale qui passent à travers l'éducation héritée de la colonisation britannique et qui est en fait accusée d'endoctriner les esprits et de détourner les musulmans de ce que devrait être un islam pur, en quelque sorte. À travers l'éducation, c'est la question des valeurs qui, évidemment, est centrale pour Boko Haram et la question du néocolonialisme. C'est-à-dire que finalement, et ça touche aussi les chrétiens, puisque les chrétiens étaient plus investis notamment dans le sud du Nigeria sur les écoles missionnaires, les chrétiens sont vus comme étant, les chrétiens africains, les chrétiens nigérians, un relais de cette entreprise de colonisation des esprits à travers l'éducation.
Ce sont des victimes donc parmi d'autres, ces lycéennes.
Il y a eu par exemple quand même 210 lycéens qui ont été tués début avril. Il n'y a pas eu une ligne dans les journaux occidentaux. On ne peut pas dire que les femmes et les lycéennes soient la première cible de Boko Haram, pas du tout. C'est cette affaire qui est extrêmement médiatisé aujourd'hui, mais qui n'est jamais qu'un tout petit pan, un tout petit segment du théâtre des horreurs qui est en train de se dérouler actuellement dans le nord-est du Nigeria, où l'armée massacre, Boko Haram massacre des villageois, il y a des hommes, des femmes. Depuis l'instauration de l'état d'urgence dans cette région du Nigeria en mai 2013, la violence a considérablement augmenté, et donc les civils sont pris entre deux feux. Ils sont accusés par l'armée de travailler pour Boko Haram, donc à ce titre, ils sont brutalisés, ou alors ils sont accusés par Boko Haram de travailler pour les milices auxiliaires que l'armée a montées à partir de mai 2013. Mais c'est bien dans cette perspective que ça se situe. Les lycéennes, c'est jamais que des victimes parmi tant d'autres.
Dans un contexte toujours plus violent et qui empire.
Le gouvernement nigérian n'a jamais voulu apprendre les leçons de la répression de 2009, lorsque le leader de la secte avait été froidement exécuté sans autre forme de procès par la police nigériane, et à ce moment-là, le groupe est devenu terroriste. On sait très bien pourtant que dans les guerres asymétriques, quand vous êtes face à un ennemi invisible comme Boko Haram, la force seule ne peut pas triompher. Il faut qu'il y ait à la fois de la carotte et du bâton. Or, à partir de l'instauration de l'état d'urgence, le gouvernement nigérian a complètement écarté la voie de la négociation politique avec Boko Haram. Il y avait des négociations en cours en 2011 et 2012. Là, on est dans une situation, sur les 10 dernières années, on n'avait jamais vu un pareil déploiement de brutalité qui en fait revient essentiellement à tuer les civils qui sont pris entre deux feux et qui d'ailleurs, pour certains, vont du coup s'enfuir dans les pays voisins. On en a recensé près de 40 000 dans la région de Diffa, qui est en République du Niger, au nord du Nigeria. Il y en a également au Cameroun. Certains d'entre eux étaient aidés par ce prêtre français qui a été enlevé il y a quelque temps.
Quelle est la conception de la société selon Boko Haram?
C'est une application stricte de la charia, le droit coranique, aux yeux de ces fondamentalistes. C'est que pour appliquer correctement la loi divine, il faut changer le régime politique du Nigeria. Et c'est là qu'on débouche effectivement sur la mise en cause de la constitution d'un État laïque qui proclame en tout cas pour la République fédérale du Nigeria une neutralité sur le plan de la religion pour lui substituer en fait un régime de califat. C'est leur logique et c'est en cela que leur revendication sur le droit coranique débouche sur une revendication politique qui vise à changer le régime.